I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu vas faire toute l'émission en japonais, s'il te plaît.
Si tu veux. Mais je peux la faire en russe, si tu veux aussi.
Non, ça ira.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine a mis un tigre dans son moteur et file à vive allure sur les traces du Transporteur qui nous revient au cinéma sans Jason Statham qui passe la main à Ed Skrein. Pour Transporteur Héritage, l'occasion aussi pour nous de nous balader un peu dans le catalogue hétéroclite et assez mal aimé, il faut bien le dire, d'Europacorp, l'Empire de Luc Besson. Et pour en parler autour de la table, ils sont trois, Charline Roux, salut Charline.
Salut Thomas.
Pia Jacquemart, salut et bienvenue chez nous, c'est ta première.
Bonjour, merci.
Et Daniel Andreev, salut Daniel.
Salut.
Allez, chauffeur, chauffeur, si t'es champion, j'adore ce titre, c'est Nos Ciné, épisode 20, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ouais, je me jette un peu des fleurs, c'est cool. Après 7 ans d'absence, Frank Martin, alias le Transporteur, est de retour au cinéma. Il a entre-temps trouvé une nouvelle existence sous forme de série télé. Jason Statham a lâché l'affaire. Il est remplacé aujourd'hui par Ed Skrein, qu'on a vu dans Game of Thrones, encore un, pour ce préquel de la trilogie initiale, toujours aussi burné, il n'y a pas d'autre mot, qui nous re-raconte les aventures de Frank Martin, le chauffeur-livreur le plus bourrin de l'univers connu, embarqué dans un braquage et une sombre affaire de vengeance.
Tu crois que c'est la première fois qu'on me menace avec un flingue? Tu vas me mettre en retard. Et je déteste être en retard.
Ah, y a pas à dire, la VF, c'est toujours aussi bien réussi. Nos trois amis autour de la table ont vu Les Petits Chanceux, Transporteur Héritage. Qu'en avez-vous pensé, Pia?
Alors c'est ma première avec vous, je voulais vous remercier. Et pour la première, j'ai regardé le Transporteur Héritage. Là, je vous remercie pas du tout, je vous ai détesté. Moi, j'ai trouvé ça nul, mais à la rigueur, un film nul, c'est pas grave. Je l'ai trouvé problématique sur plein d'aspects, notamment le rapport aux femmes, le rapport à l'argent, le rapport au père.
Parce qu'il y a quatre personnages féminins.
Tu fais le procès de tout au repas, là, déjà.
Non. Alors attends, il y a quand même quelque chose que je retrouve en général dans les films au moins coécrits par Besson, c'est ce que j'appelle le féminisme plouc. C'est-à-dire qu'il est représentent un petit peu comme des prostituées, ces héroïnes, mais au moins elles se bagarrent, elles font progresser l'intrigue. Là, les quatre cruches, elles sont insupportables. Et alors franchement, si on trouve ça badass de porter aujourd'hui une perruque blonde mal coupée et d'avancer avec des talons aiguilles et des flingues, c'est vraiment la honte, quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment horrible.
Charline.
Et au-delà de ça, elles sont très très mal filmées. C'est-à-dire que c'est censé être des sex symboles complètement bombasses. Il réussit quand même à les rendre, je dis ça devant des garçons, c'est horrible, moyennement attractives. Mais surtout, le film, c'est très étrange. Moi, j'ai beaucoup ri. Je pense pas que c'était le but. Et c'est un peu mâchoire serrée et duck face sur la Riviera, quoi. C'est-à-dire que tout tient sur deux expressions, hein, quand même. On est tout en cul de poule, que ce soit le héros comme les héroïnes. Ça joue très 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 mal. Hein. C'est-à-dire que le budget est passé dans les voitures cassées, mais certainement pas dans les cachets des comédiens. C'est quand même un gros souci.
Ce qui explique que Jason Statham soit pas là, d'ailleurs, parce qu'il ne faisait pas assez de thunes.
Et surtout, c'est quand même une très 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 longue pub pour Audi, en fait. Hein. Alors, c'est ni plus ni moins, quoi.
Ça a toujours été le cas.
Ouais, mais alors là, ça s'est quand même aggravé.
Dans le Transporteur, la BMW.
En même temps, par contre.
La voiture qui s'envole dans le deuxième épisode, la voiture qui s'envole pour enlever la bombe et retomber sur ses pieds en image de synthèse, c'était la pub Audi la plus incroyable du cosmos.
Non, mais là, le truc qui est très étrange, c'est que c'est vraiment l'image que je me ferais d'un film qu'un garçon ferait à l'attention d'autres garçons qui seraient pas bien malins, quoi. C'est-à-dire que tout y est. C'est-à-dire que les cruches qu'on peut payer, le garçon qui est censé être plein de testostérone, mais c'est quand même un mannequin Calvin Klein, quoi. Pardon pour lui. C'était une fille en or. On ne dirait pas ça parce que c'est pas très sympa, mais là en l'occurrence, pour un garçon qui est censé être discret et low profile, il a quand même un physique de mannequin, c'est-à-dire qu'il passe quand même difficilement inaperçu. Il ouvre pas la bouche quand il parle, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué de comprendre. Et surtout, je n'ai jamais vu autant de scènes gratuites dans un film. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est quand même assez hallucinante où les filles sont dans une boîte de nuit, censées être discrètes malgré leurs trois perruques du Crazy Horse. Elles dansent, on sait rien sur leur sexualité, on s'en fout, mais elles se roulent des pelles. C'est quand même le fantasme. Si on mettait des triples et si elles s'embrassent, et ça sert à rien, mais on va le faire quand même. Enfin, c'est que ça. C'est une succession de trucs sans queue ni tête. L'un des personnages est censé être une jeune femme basque. On ne sait pas en quoi c'est intéressant dans l'intrigue. Mais il y a quand même 10 minutes de scène sur la conversation. C'est les basques sont tellement sympas. C'est lunaire, quoi. J'ai rarement vu ça.
Il y a un gros problème conceptuel déjà dans ce film. C'est pourquoi faire un reboot
qui est censé être un préquel en même temps.
D'un truc qui n'a, enfin, qui n'intéresse personne, savoir les origines de Franck. Tout le monde s'en branle. Et pourtant, ils en ont fait un film autour. Et Luc Besson est toujours dans le coup. Il co-scénarise à chaque fois le même film. C'est la même histoire. À chaque fois, il arrive en retard au début. On a le même parking au tout début. À chaque fois, il se fait emmerder par des loulous qui disent « Ouais, on veut ta caisse !» Il leur tabasse la gueule et tout. Et tu avais raison sur un point, c'est que c'est quand même moins bien réalisé. Tu sens que le premier transporteur, bah, il y avait Corey Yen qui co-réalisait et faisait toutes les cascades, tous les stunts. Maintenant, tu sens que le mec, il est, c'est un noob, c'est un yes man de l'écurie EuropaCorp. Il avait réalisé le remake de Banlieue 13. Donc, tu vois.
C'est déjà un exploit en soi.
Mais screen on screen, c'était le même film. Hein. Et non, donc il y a un gros problème conceptuel dans ces films. Et du coup, on sent qu'ils en ont plus rien à foutre. Les acteurs n'en ont plus rien à foutre. Tu sens que l'équipe n'en a rien à foutre.
Les spectateurs n'en ont rien à foutre.
Alors non, parce que moi, j'ai ri à au moins deux scènes. Il y a deux scènes qui m'ont vraiment fait rire. À la toute fin, il y a un moment, le mec, sur son jet ski, il arrive sur le sable et le jet ski continue pendant 20 mètres. Alors. Pas possible, normalement le mec il se brise la nuque. Il se brise la nuque et il va tellement loin qu'il arrive jusqu'à la voiture, une Audi, et il saute pieds joints dans la vitre, mais au millimètre près, en faisant une espèce de roulé-boulé salto. C'est pathétique, c'est tellement bien. Et l'autre scène absolument géniale de ce film, c'est les 30 premières secondes qui se déroulent en 1995. Et alors derrière, t'entends I Am, t'entends Shuriken de
c'est
I Am.
Shuriken, ouais.
Et tu te dis, waouh ouais, putain, mais c'est une espèce de film d'époque, là, une espèce de mafioso Ruskov qui débarque sur la croisette. Et ce qui est génial, c'est que je m'imagine que ce film se déroule dans le même monde que Taxi. Et je me dis, quelque part, il y a un Bessonverse. Tous ces films, peut-être ces héros pourront un jour se rencontrer. Il y aura des crossovers, il y aura un grand Avengers. Bah, des films, des films Besson, c'est ça en fait, vers le monde vers lequel on va. Et on a envie de voir ça.
Il y a Noémie Lenoir, c'est déjà bien parti.
Il y a Noémie Lenoir et puis il y a l'acteur qui joue le policier. Qui est toujours dans les films de Besson. Une scène, il a une scène.
Oui, non mais alors...
Voilà.
Mais,
oui. Il pose le Besson verse.
Oui, comme c'est les origines, il y a aussi un détail important qu'on a oublié, c'est qu'il y a le père. Et alors tu sens que les mecs,
il a un problème avec son papa.
Ils ont regardé Indiana Jones juste avant, ils se sont dit Indiana Jones dernière croisade, c'est bien, on va copier ça.
Mais le truc qui est dingue, c'est qu'on est quand même à discourir sur la vraisemblance d'une production comme Transporteur, ce qui est quand même lunaire. Mais en même temps, dans les problèmes de vraisemblance aussi, il y a ce héros qui. Enfin, auquel on peut pas adhérer quand il se bat, quoi. C'est-à-dire que même les scènes de bagarre, ça ne marche pas du tout.
Il y en a une où il met sa voiture en.
Non, mais arrêtez,
en pilote
automatique. On parle d'un mec qui, quand il adoré. Non, mais il court comme Scarlett Johansson dans Avengers, quoi, avec les mains à la verticale devant, en faisant comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Mais dans les scènes de bagarre, il est naze.
Je suis pour, mais il fait même pas ça.
Bon, Transporteur Héritage, on a compris, c'est en ce moment au cinéma, si vous en avez le courage, pas forcément obligatoire, il y a beaucoup de prostituées dedans. Merci Daniel. Les autres transporteurs, ça se trouve assez facilement, si vous en avez le courage aussi, en DVD. DVD et VOD.
On t'a mal aiguillé, mon gars. Ici, c'est pas Monaco, c'est Bagdad.
Ans d'existence, 23 ans si on compte la première aventure que fut Lilou Productions et un catalogue aussi imposant que foutrement varié. Pour EuropaCorp, le grand tout dans lequel sont rassemblées les affaires de Luc Besson et la première fois officiellement qu'on a commencé à en parler, c'était avec ça, souvenez-vous.
Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Deux mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein ?
Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire ?
Non.
Ouais, et bah tu vas venir voir quand même.
Et efficacité.
Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît ?
C'est comme le port-salut. C'est marqué dessus.
Et des punchlines de malade. Taxi, premier du nom, on a tous aimé à l'époque, faites pas semblant. Quel regard porté sur. Si, si.
Non.
Quel regard. Mais si.
T'as pas aimé ?
Mais si.
Non.
Je peux finir par mais c'était génial. De leur
arrête, c'est pas possible.
Coucou, merci. Quel regard on porte sur le catalogue EuropaCorp, assez mal aimé en général par la critique, il faut bien le dire. Daniel.
Alors écoute, moi je trouve que, évidemment, c'est un catalogue de films. Bah, alors il y a des grandes productions, on va tout de suite les nommer, genre Tree of Life, enfin tu vois, et les comédies sentimentales qui sont complètement autre chose. Mais quand on parle EuropaCorp, on pense tout de suite aux actionneurs un peu débiles, on pense à la saga Taxi, on pense à Taken, on pense à tous ces trucs qui sont tous co-scénarisés par Luc Besson. Hein, je sais pas qui est ce type, quelqu'un en a entendu parler, je ne sais pas. Il est dans toutes les copres, je ne sais pas comment il fait pour signer à chaque fois un scénario aussi pourri. Et parfois, il y a des petits miracles de choses bien. Par exemple, moi, j'ai un grand crush C'est mon guilty pleasure pour Banlieue 13 que je connais absolument par cœur. Banlieue 13 qui est un film extraordinaire. Si tu... C'est le premier film qui vraiment intègre le parcours de manière intelligente, non pas comme les ninjas dans Yamakasi, dans Taxi 2, mais vraiment de manière cohérente dans l'univers urbain. Et il y a vraiment... Il y a un culte autour de Banlieue 13 aux États-Unis à tel point que c'est vraiment une demande du public d'avoir fait un remake américain avec Reza en méchant, et ça c'est vraiment la magic touch. La magic touch méchant, il a un catalogue d'acteurs, il a les meilleurs Morgan Freeman du monde, il a et puis ça lui permet de faire des films absurdes comme Lucie, quoi.
Enfin, oui, je veux absurde, dire, c'est le mot, ouais. Ou idiot. Idiot, c'est bien aussi.
Oui, débiloïde. Mais à chaque fois, ça devient des espèces d'objets filmiques qui n'ont rien à voir avec la qualité propre du film, mais qui deviennent des chefs-d'œuvre de punchline, comme tu disais. C'est débile et j'adore ça.
Ouais, Pierre. Alors bon, je suis moins amoureuse que Daniel du catalogue Robacorp.
C'est pas très grave.
Non, il y a eu quand même quelques bonnes surprises. Il y a des films pourris dont on se rappellera toujours avec émotion. Moi, c'était Le baiser mortel du dragon.
Mais il est génial.
Mais oui, que j'ai adoré.
Avec Chiqui Cario qui joue. Oui.
Complètement avec la fille vénéneuse. Non, et de façon générale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est j'aime détester les Bessons. C'est jamais des bons films, mais c'est toujours des films avec une place hyper importante laissée aux femmes. Lucie, c'était catastrophiquement mauvais et en même temps, c'était assumé jusqu'au bout. C'était le film de super-héroïne que personne n'avait osé donner à Scarlett Johansson, qui remontait aux origines de l'homme avec une femme, quoi. C'était délirant, c'était n'importe quoi, c'était mauvais, c'était moche, c'était de mauvais goût, mais franchement, qu'est-ce que c'était Girl Power, j'ai halluciné.
Ah ouais, t'as aimé les scènes où elle dit à sa mère « Maman, je me souviens du goût du lait de ton lait maternel. »
Ah ouais, mais là tu vois, j'ai vraiment rigolé, quoi. Là, j'ai vraiment, vraiment rigolé. Tu vois, le transporteur, je l'ai trouvé médiocre et ça m'a pas fait rigoler. Lucie, ça allait tellement loin, c'était magique.
Charline. Tu parles de la place des filles chez Luc Besson, c'est quand même un vrai souci. Enfin, on est toutes hystériques, en fait. Hein. C'est ça, le truc. La vision de la femme est quand même juste sur-hystérisée.
Ah oui, non, mais elle est problématique. Je suis d'accord avec toi, elle est problématique. N'empêche que c'est des rares films où les personnages féminins n'existent pas forcément à travers un homme. Elles font... Oui, non, mais si, attends, elles sont quand même des têtes
d'affiche. Au moins d'affiche. À travers Luc Besson, quoi.
Mais de toute façon, il a un problème. Il les fait jouer, il les épouse, etc. Ça, on est bien d'accord. Et après, il les jette et il les donne au réalisateur de Resident Evil, ce qui est pire.
Mais, de qui parles-tu?
mais n'empêche que... tu vois, si tu vois sur une année de sortie cinéma dans le monde, des films avec une femme déjà en tête d'affiche qui est l'héroïne qui fait progresser.
Si c'est pour faire ça, alors, franchement.
Ah non, mais rien n'est parfait. Rien n'est parfait. N'empêche que elles sont fortes, elles sont hystériques, mais humaines. Voilà.
Ceci étant, je suis prête à subir trois mauvais films avec des hystériques si c'est pour avoir droit chez Europa à trois enterrements de Tommy Lee Jones, par exemple. Parce qu'il y a ça aussi, hein, y a des kilomètres de trucs vraiment pas bien pour de temps en temps réussir à sortir des films qui valent vraiment le coup, quoi.
Mais est-ce que ça vaut le coup de se taper le dernier transporteur où il y a quatre prostituées? Mais c'est ça qu'on oublie, c'est que ces filles putes, elles sont toujours systématiquement putes, hein, chez Luc Besson, mais en même temps elles deviennent hackeuses. Je ne sais pas à quel moment elles sont devenues hackeuses dans leur travail.
Agents
secrets, elles arrivent à flinguer des mecs. C'est des personnages qui n'existent pas. C'est comme dans Taxi, quoi. Ce chauffeur de taxi n'existe pas. Ces flics idiots, ils sont pas aussi idiots dans la vie. Enfin, j'ose espérer. Mais c'est un monde surréaliste et ce Bessonverse. Moi, ça me fascine, ça me débecte, évidemment, mais ça me fascine parce que c'est un degré de nullité. Plus c'est con et mieux c'est. Et pour moi, le film qui illustre le plus ça, c'est Taxi 2. Parce que c'est un film à la fois con, bête et raciste. Non, il est très, très raciste. C'est le plus raciste. Et le jour où ils ont décidé, on a été un peu trop con, un peu trop bête, un peu trop raciste, ils ont fait Taxi 3, qui était un peu moins tout ça, et il était moins bien. Voilà.
Ça résume assez bien la vie d'EuropaCorp, on va dire. Les films estampillés EuropaCorp, ils sont en général assez faciles à trouver en DVD, VOD. Le prochain au cinéma, si je ne dis pas de conneries, ce sera Shut In de Farren Blackburn, que je ne connais pas, avec Naomi Watts, que je connais par contre. Et pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, de petites minutes chacun, pour convaincre. On essaie de rester dans le thème, si possible, EuropaCorp et associé, Charline.
Et bien, au printemps dernier, est sorti un tout petit film qui, ouais, si Luc Besson n'avait pas été là, ne serait pas sorti du tout, parce que c'est lui qui a aidé ce jeune réalisateur qui s'appelle Paul Lefebvre. C'est un road movie un peu comédie romantique, un peu rafistolé, un peu branque, mais assez mignon. Moi, je conseillerais celui-là. Ça m'a assez charmé.
Comment ça s'appelle ?
Ça s'appelle I Love You, de Paul Lefebvre, avec Paul Lefebvre et Antoine Gouy.
Daniel.
Alors, moi, évidemment, j'ai déjà cité mon amour pour Banlieue 13, donc je vais pas revenir dessus.
Non, s'il te plaît.
Donc, alors, moi, je vais en choisir un au pif, comme ça. Je prends Lockout, qui est sorti il y a pas si longtemps. Et Lockout est une bêtise géniale, parce qu'en fait, c'est une prison dans l'espace. Et grosso modo, ils envoient Bruce Willis, joué par Guy Pearce.
Déjà, ça part très mal.
Il l'envoie sauver la fille du président, parce que la fille du président américain, évidemment, c'est une putain de gauchiste. Donc, elle est allée faire des trucs en prison, genre associatif et tout ça. Évidemment, il y a une émeute. Et évidemment, elle se fait kidnapper. Et là, arrive l'équivalent de Bruce Willis, c'est-à-dire Guy Pearce. On lui file un... Juste pour montrer l'idiotie, on lui file un explosif en forme de cadenas de vélo. Et alors, le premier truc, tu dis, putain, ça va servir jusqu'à la fin, tu sais, comme dans les James Bond. Le premier truc qu'il fait, il arrive dans la prison, il le fout autour d'un coup d'un mec, la tête, elle explose. C'est d'une connerie.
C'est fini.
C'est un film absolument génial. Il faut le voir comme si c'était Die Hard dans l'espace. Exactement ça.
Je trouve ça très ambitieux. Pia, pour finir.
Eh ben, moi, j'avais gardé une cartouche, j'avais gardé Haute Tension, donc qu'a fait découvrir Alexandre Aja, que j'aime beaucoup. Encore un film avec une héroïne, bon, quand je suis un peu, mais qui est forte quand même. Donc pourquoi pas, Haute Tension.
Haute Tension, c'est noté. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique, au temps et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné dans une semaine. On parlera de Straight Outta Compton, le biopic consacré au groupe de rap N.W.A. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Narcos, sur Mad Max, sur Rambo, sur Mission Impossible, et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
Oh, Rosebud !
Mademoiselle, voilà ! Tina Turner, qui chante, qui chante pas, vous allez l'entendre tout de suite !
Salut, c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrypte et parfois trash la pop musique.
Qui chante quoi ?